Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS, c'est pour à votre santé. Bonjour, bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver. Et alors que beaucoup de départements étaient encore en alerte rouge concernant les allergies au pollen, nous allons parler d'allergie ce matin avec mon invité, le docteur Catherine Kéké. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
Voilà, vous êtes médecin allergologue. C'est la spécialité qui, écrivez-vous, vous convient le mieux. Et ce qui vous plaît vraiment le plus dans votre métier, ce sont les enquêtes allergologues.
Absolument.
Voilà, vous êtes...
L'allergologue est un véritable détective.
Oui, et on voit dans votre livre, il faut vraiment parfois avoir un esprit d'anticipation quand même, hein, pour pouvoir résoudre certaines allergies.
Oui, oui, en effet. Le diagnostic allergologique passe par plusieurs étapes et... Initialement, il y a l'enquête allergologique avec l'interrogatoire qui est très important.
Alors, vous publiez les nouvelles allergies aux éditions du Rocher, comment les reconnaître, comment les combattre. Et dans ce livre, vous vous intéressez aux allergies contemporaines. Et vous avez participé récemment à un livre de cuisine qui s'appelle Cuisine sans allergènes de Marie Lossy chez Hugo Life. Elle est mère de 3 enfants, dont 2 sont allergiques. Et elle a dû réorganiser la façon dont elle cuisinait. Depuis 20 ans, elle invente des recettes sans allergènes. Et vous, vous donnez les conseils médicaux.
Voilà, c'est ça. Moi, j'ai fait les encadrés médicaux dans ce livre, en donnant quelques conseils pour éclairer les personnes qui sont allergiques sur certains éléments, comme par exemple l'importance de l'influence de la cuisson sur certains allergènes.
Alors, il faut expliquer ça, parce qu'un aliment cuit à plus ou moins une certaine température n'a pas les mêmes effets allergiques que l'autre, c'est ça ?
Alors en effet, c'est-à-dire que par exemple si on prend une pomme, il y a plusieurs allergènes dans la pomme et il y a des allergènes qui sont détruits par la cuisson et d'autres qui ne le sont pas. Ce qui fait que la personne qui est allergique alors à ce qu'on appelle la famille des PR10, qui se trouve plutôt dans la pulpe du fruit, vont pouvoir manger les fruits cuits, puisque l'allergène est détruit par la cuisson,
ouais.
Mais ne pourront plus les manger crus. Quand ils vont les manger crus, ils vont avoir une sensation de démangeaison dans la bouche, de gonflement au niveau des lèvres, etc. Et c'est souvent lié à une allergie au pollen de bouleau.
Parce que c'est ce qu'on appelle les allergies croisées. Et ça, on va beaucoup en parler ce matin, parce que c'est très important de comprendre que finalement, les allergies se croisent. Sauf que sa fille, elle, c'était la poire. Alors, est-ce que ce que vous avez dit pour la pomme, ça marche pour la poire ?
Voilà, la poire, la pomme, les fruits à noyaux, tout ça, ça croise avec le pollen de bouleau.
La pêche, ça marche aussi.
La pêche, exactement.
Bien.
Alors, vous êtes sachant que la pêche peut aussi croiser... d'une façon différente avec le pollen de cyprès. Et dans ces cas-là, on a des réactions plutôt dans le sud de la France avec des réactions plus sévères, de type anaphylactique.
C'est quoi une réaction anaphylactique ?
Alors, une réaction anaphylactique, c'est une réaction extrêmement sévère au niveau de l'allergie alimentaire avec des troubles digestifs, respiratoires, etc., qui nécessitent l'injection d'adrénaline.
Et l'adrénaline, c'est quoi ?
L'adrénaline, c'est le traitement d'urgence qui va permettre de traiter justement cette réaction anaphylactique. En injection, en fait, avec un stylo auto-injecteur.
Parce qu'on a toujours l'impression que c'est une réaction ou une hormone sécrétée en cas de forte excitation.
Alors, oui. Aussi, en cas de réaction forte allergique, dépendant de ce qu'on appelle les anticorps IgE.
Voilà. Et on va reparler des IgE, d'ailleurs, aujourd'hui. Vous êtes en guerre contre les chaînes de télévision qui font des reportages sur les allergies au pollen et qui n'invitent pas d'allergologues. Pourquoi ?
Mais alors, c'est
c'est tellement vrai en plus.
Certaines émissions, il faut quand même le dire, invitent de plus en plus des allergologues, ce qui est quand même une bonne chose. Mais c'est vrai que parfois, on se retrouve dans des émissions télévisées où en fait... il n'y a pas d'allergologue et c'est un petit peu dommage parce que l'allergologie, c'est une spécialité à part entière et c'est bien d'inviter un spécialiste allergologue.
Alors, c'est un marronnier, hein, les allergies, ça revient tous les ans. Donc, de toute façon, on en parle très souvent. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de papiers, dans les journaux et c'est surtout qu'il y a beaucoup de gens concernés. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on en parle souvent.
Oui. Bah, en fait, Ce dont on parle le plus, c'est l'allergie au pollen, puisque en fait, c'est vraiment ça le marronnier, les gens qui éternuent, etc., à une saison. Mais il y a aussi d'autres allergies, comme les allergies alimentaires.
Et paradoxalement, dans l'augmentation des allergies, les allergies alimentaires, elles augmentent plus que les allergies au pollen.
Alors, quelquefois, c'est un peu lié, justement, en raison des allergies croisées.
Même finalement, si le nombre d'allergies au pollen est en constante augmentation, hein, vous dites qu'elles ont changé de nature, d'une certaine façon, ces allergies au pollen.
Alors, disons que les saisons sont beaucoup plus longues que le réchauffement climatique, la pollution de l'air explique énormément de phénomènes de modification en fait de la durée et de l'accroissement des symptômes.
Mais est-ce que ça a modifié la composition du pollen, par exemple ? Là, vous parliez de pollution urbaine.
Pollution, oui. Ouais. Ça modifie le pollen, oui. Oui.
Mais ça veut dire qu'il est plus agressif aujourd'hui ?
Oui, tout à fait.
Et effectivement, les saisons sont plus longues parce que les hivers sont plus doux.
Voilà, c'est ça.
Alors, l'OMS dit que c'est très important finalement, puisque l'allergie est classée quatrième maladie chronique mondiale, selon l'OMS.
Oui.
Et qu'on estime qu'à l'horizon 2050, eh bien, la moitié de la population mondiale sera allergique.
Oui. Il faut savoir que dans les années 80, le pourcentage était nettement inférieur et qu'au fur et à mesure, en fait, le pourcentage augmente. Ouais.
Alors.
Du fait de notre mode de vie, de l'industrialisation, de l'alimentation transformée, etc., qui favorise les allergies.
Alors on verra pourquoi ça change finalement, quel impact ça a sur la façon dont on est allergique. Parce que c'est un lien avec les pollens. Par exemple, si on mange McDo, est-ce que c'est un lien avec les allergies au pollen ?
Non, pas par rapport au pollen, mais par rapport au microbiote intestinal en fait.
D'accord.
C'est-à-dire que si on mange hyper transformé, le microbiote intestinal est moins diversifié et cela favorise les allergies alimentaires, tout du moins chez les enfants.
Alors, on met l'allergie au singulier, mais l'allergie, ça devrait être au pluriel, hein. Il y a plusieurs types d'allergies.
Oui, tout à fait.
Quels sont les différents types d'allergies
Les plus fréquentes, ce sont ce qu'on appelle les allergies immédiates, c'est-à-dire les allergies IgE médiées comme les allergies au pollen, aux aliments, aux hyménoptères.
Alors vous connaissez ça par cœur, mais IgE médié.
Oui, alors pardon.
Parce que imaginez que nous, on ne sait pas ce que c'est que des allergies IgE médiées.
Alors, il y a ce qu'on appelle le terrain atopique, c'est-à-dire le terrain génétiquement prédisposé à faire des allergies et les personnes fabriquent des anticorps IgE qui vont réagir avec des allergènes de l'environnement. Donc ça, il faut qu'il y ait des antécédents allergiques dans la famille.
C'est-à-dire parents, grands-parents ?
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les allergies retardées, les eczémas de contact, par exemple, avec les bijoux fantaisie, etc. Et puis, vous avez maintenant des nouvelles allergies alimentaires qui sont ce qu'on appelle les non-IgE-médiées, qui s'appellent le CEIPA et les œsophagites à éosinophiles, mais qui ont plus un rapport avec des troubles digestifs. Et dans ces cas-là, il y a...
C'est pour les gastro, ça. C'est pour les gastro-entérologues.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Ouais. Mais elles ne sont pas IgE médiées parce qu'en fait, c'est des substances que peut-être nos parents ou nos grands-parents ne mangeaient pas.
Non, le mécanisme est totalement différent. Il n'est pas encore complètement compris pour ce qu'on appelle le CEIPA. Pour les œsophagites à éosinophiles, il y a des cellules éosinophiles qui se retrouvent dans l'œsophage et qui vont bloquer les aliments puisqu'il y a une inflammation au niveau de l'œsophage. En fait.
Alors, il y a une idée que vous battez en brèche. C'est une idée que l'allergie apparaît comme ça du jour au lendemain.
En fait, il y a toujours une période de sensibilisation pendant laquelle on fabrique des anticorps, par exemple des IgE, mais on n'est pas allergique. On n'a pas de symptômes. Et après, au fur et à mesure du contact, on devient allergique, en fait.
Ça peut prendre combien d'années?
Oh là, ça peut prendre le temps que ça prend, je veux dire, quelques mois ou quelques années. Ça dépend.
Donc, on ne devient pas allergique du jour au lendemain. Donc, il y a toujours cette phase.
Ouais. On a l'impression qu'on le devient du jour au lendemain. Mais il y a toujours une période préalable pendant laquelle on fabrique, on se sensibilise en fait.
Mais à l'inverse, est-ce qu'une allergie peut disparaître du jour au lendemain? Il y a des gens qui étaient asthmatiques à un moment de leur vie, qui ne le sont plus 15 ou 20 ans plus tard, par exemple. Vrai ou pas vrai?
Ça disparaît quand il n'y a plus de contact avec l'allergène. Et l'asthme est un petit peu différent, parce que l'asthme, il n'est pas forcément d'origine allergique.
Mais sur les allergies, vous connaissez des allergies qui disparaissent du jour au lendemain?
Alors, du jour au lendemain, non. Après, vous avez chez les enfants, par exemple, l'allergie à l'œuf ou l'allergie au lait qui peut disparaître avec l'âge.
Ça
n'est pas systématique.
Et qu'est-ce qui peut expliquer que ça disparaisse avec l'âge, alors?
Alors là, je n'ai pas d'explication à vous donner. Je pense que pour l'instant, c'est encore un mystère.
Il y a encore beaucoup de mystères sur les allergies,
finalement. Oui. Mais l'allergologie, c'est ça qui est passionnant. C'est qu'il y a beaucoup de mystères à régler.
Alors, dans un instant, nous allons parler des allergies alimentaires. Et là, vous avez mené l'enquête. Vous êtes allé fouiller un petit peu partout dans le monde entier pour voir quelles étaient les allergies alimentaires les plus incroyables. Vous restez avec nous et on parle d'allergies jusqu'à 13h dans AVS.
AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec notre invitée aujourd'hui, alors elle n'est pas sur le plateau, elle est au téléphone, c'est le docteur Catherine Quéquette qui est médecin allergologue. Et vous publiez alors notamment deux livres. Vous avez participé au livre qui s'appelle Cuisine sans allergène de Marie Lossi chez Hugo Life, et puis vous publiez les nouvelles allergies, aux éditions du Rocher. Comment les reconnaître, comment les combattre. Alors on parlait de l'absence des allergologues sur les plateaux de télévision, mais vous dites que parfois aussi ce qu'il faudrait c'est de parler de ce fameux bilan allergologue. En quoi ça consiste?
Alors, le bilan allergologique, il est fait par l'allergologue. Alors, c'est vrai que malheureusement, en France, il y a trop peu d'allergologues par rapport au nombre d'allergiques et qu'il faut d'abord passer par soit le pédiatre chez l'enfant ou le médecin généraliste pour déjà débrouiller un peu le travail. Et ensuite, dans un deuxième temps, aller voir l'allergologue pour faire ce qu'on appelle des prick tests, des tests sur la peau, pour identifier l'allergène. Et ensuite, on peut faire aussi un dosage sanguin des IgE spécifiques qui sont dirigés contre les allergènes. Et dans ces cas-là, on identifie encore mieux l'allergène.
Est-ce que ces bilans sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie?
Oui.
Oui?
Tout à fait.
Et alors, après, une fois que vous avez le résultat de ces tests, il peut y avoir une période de désensibilisation. Donc là, est-ce que ces traitements sont pris en charge par l'assurance maladie?
La désensibilisation est un traitement qui est pris en charge pas suffisamment, je dirais. Maintenant, on appelle ça l'immunothérapie allergénique.
Oui.
Et ça se fait maintenant pour ce qu'on appelle les pneus allergènes, c'est-à-dire les allergènes aériens, les pollens, les acariens, etc. Ça se fait par voie sublinguale, avec sous forme de gouttes ou sous forme de comprimé, avec un remboursement trop modeste pour la forme comprimée. Et dans ces cas-là, il faut se rapprocher de sa mutuelle pour connaître les conditions de remboursement.
Oui. Alors, je vous pose la question parce qu'il peut y avoir, notamment chez les ados, beaucoup d'arrêts dans les périodes de désensibilisation.
Oui.
Donc, si vous n'allez pas jusqu'au bout, ça ne fonctionne pas, quoi.
La désensibilisation, c'est 3 à 5 ans. On admet qu'après 4 ans de traitement, on peut arrêter.
D'accord. Bien. Le bilan allergologique, il se fait en une fois, en plusieurs fois?
Ça dépend en fait des symptômes, ça dépend de si la personne, en général, les allergiques peuvent avoir une allergie respiratoire, une allergie alimentaire, et dans ces cas-là, le bilan s'allonge au fur et à mesure du nombre de symptômes et d'allergènes responsables.
Quels sont les motifs de consultation les plus fréquents chez vous aujourd'hui ?
Les premiers motifs, c'est essentiellement les motifs respiratoires avec les acariens, avec les animaux, avec les pollens. Alors après, en fonction des saisons, il va y avoir les motifs qui vont se modifier et puis il y a les allergies alimentaires. Les allergies médicamenteuses sont plus traitées en milieu hospitalier, en fait.
D'accord. Mais en gros, vous voyez arriver de plus en plus de parents ou de gens qui souffrent d'allergies alimentaires ou pas ?
Oui, et puis il y a des personnes de plus de 60 ans aussi qui avant, on disait que l'allergie, c'était pour les personnes jeunes, mais les seniors, maintenant, sont aussi concernés.
Et alors, quel type d'allergie, au final, les amène à vous consulter ?
Pour les enfants, c'est plutôt les allergies alimentaires. Après, il y a pour les adultes les allergies respiratoires et il y a des allergies médicamenteuses, mais c'est beaucoup moins fréquent.
Mais pour les seniors, qu'est-ce qui amène les seniors à consulter finalement alors qu'ils ne l'avaient pas fait avant ?
Les allergies respiratoires, en fait. Les pollens, par exemple.
Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont changé de région, ils ont...
Alors oui, on peut avoir ce motif-là. Après, il y a un allongement de l'âge. Il y a plein de phénomènes qui rentrent en ligne de compte, en fait.
Quelle différence faites-vous entre une allergie alimentaire et une intolérance alimentaire ?
Alors l'intolérance... On va dire que... Alors, il y a plusieurs types d'intolérance, mais l'intolérance ne met pas en jeu le pronostic vital. Alors qu'une allergie peut entraîner un pronostic vital, déjà. Après, les mécanismes sont différents en fonction des intolérances, en fait. Alors, si vous voulez que je les énumère, il y a l'intolérance... au gluten, qui est la maladie cœliaque, qui est une pathologie auto-immune. Après, vous avez l'intolérance à l'histamine, qui est un déficit enzymatique, l'intolérance au lactose, qui est un déficit enzymatique en lactase, qui fait que le lactose, le sucre du lait, va être moins bien digéré. Voilà, ce sont les principaux. Et puis, dans ces cas-là, les tests allergologiques sont bien sûr négatifs.
Mais là, on parle d'intolérance. Alors, c'est vrai que le gluten, c'est une intolérance dont on parle beaucoup, mais finalement, peu de gens sont intolérants au gluten.
Alors, l'intolérance au gluten, c'est vraiment le gastro-entérologue qui s'en occupe, en fait.
D'accord. Donc, ça, c'est pas les allergologues. D'accord. S'il était allergique, il viendrait vous voir. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Ou pas.
On peut avoir des personnes qui viennent nous consulter et qu'on réoriente après parce que le diagnostic n'est pas le bon, en fait. Enfin, il n'est pas allergologique. Donc, on va réorienter vers le spécialiste gastro-entérologue, par exemple.
Alors, il y a une allergie que les parents connaissent bien, c'est ce qu'on appelle l'APLV, l'allergie aux protéines du lait de vache. Donc, c'est connu depuis longtemps. Mais finalement, c'est pas toujours bien diagnostiqué. Pourquoi ?
C'est pas encore trop connu, malheureusement. Et puis, il y a plusieurs formes d'APLV. C'est encore sous-estimé, malheureusement. On a beau essayer de faire passer des messages, il y a toujours des cas qui passent un peu à l'ast, je dirais. Et les parents ont du mal, en effet, à... Il y a quelquefois une errance diagnostique qui fait qu'on se retrouve avec des parents un peu désorientés. Et c'est pour ça que j'y ai consacré un chapitre entier dans mon livre.
Donc finalement, quel est l'allergène de cet AP élevé?
Alors, il y en a plusieurs. Il y a la bêta-lactoglobuline, la caséine, l'alpha-lactalbumine. Ce sont les principales, en fait.
Et quels sont les symptômes chez l'enfant?
Alors, chez l'enfant, ça peut prendre plusieurs formes, comme des troubles digestifs ou bien de l'urticaire, une anaphylaxie, un angioédème. Il y a plusieurs types. Ça peut être une crise d'asthme aussi, qui peut être due à par la PLV, quoi.
Et qu'est-ce qui peut amener le professionnel de santé à suspecter une APLV?
C'est la première allergie alimentaire chez le nourrisson, de toute façon.
D'accord. Donc ça démarre très tôt, c'est ça?
Oui. Ça peut démarrer dès l'allaitement maternisé, ou bien l'allaitement maternel, si par exemple la maman mange du fromage ou du lait, l'allergène passe dans le lait maternel, en fait.
Comment est-ce qu'on peut, pour les parents qui nous écoutent, prévenir une APLV?
Comment la prévenir?
Qu'est-ce qu'on devrait ne pas faire, ou à la maternité, par exemple?
Alors, il y a des recommandations qui sont... c'est-à-dire que soit on... Déjà, il faut voir le terrain, si le terrain familial... prédispose ou pas. Après, il y a des recommandations qui peuvent être données pour introduire le lait. C'est-à-dire que quand on commence l'allaitement maternisé, il faut continuer avec le lait maternisé, sauf bien sûr s'il y a des symptômes qui apparaissent. Si on fait l'allaitement, il faut pas faire les deux, c'est-à-dire qu'il faut pas faire une alternance des deux. C'est on choisit l'un ou on choisit l'autre.
D'accord, oui, il faut choisir son camp, on n'alterne pas.
Voilà, il faut surtout pas alterner au début, en fait.
Qu'est-ce que vous appelez, vous, la dangerous bottle?
Et justement, c'est cette introduction un peu anarchique, on va dire, au début, où on va donner l'un et l'autre. Parce qu'on va risquer de sensibiliser l'enfant.
Mais la solution, c'est pas de remplacer, par exemple, les préparations maternisées par des boissons végétales?
Alors non, pas de boissons végétales chez les nourrissons, parce que au niveau nutritionnel, c'est insuffisant, en fait. Il ne faut surtout pas faire ça. Sauf des préparations infantiles à base de riz qui sont conseillées par les médecins.
D'accord. Mais le lait végétal, de toute façon, ça ne devrait pas s'appeler lait végétal, parce que c'est du jus.
De 3 ans.
D'accord.
Il faut vraiment, pour introduire un produit végétal, enfin une boisson végétale chez l'enfant, il faut aussi que la diversification soit bien commencée, quoi.
Il y a aussi des préparations hypoallergéniques, hein, les laits HA.
Alors non, les laits HA ne sont pas indiqués, en fait. Et au contraire, les laits HA ont été étiquetés à risque pour entraîner ensuite des problèmes d'allergie.
D'accord. Il y a aussi d'autres options. Alors, je ne sais pas si vous les recommandez, hein, lait de chèvre, lait de brebis, d'ânesse ou de jument.
Alors, tous les laits de mammifères, quand il y a une allergie aux protéines du lait de vache, sont contre-indiqués.
D'accord. On ne peut pas remplacer par un autre...
On peut avoir des allergies croisées, en fait.
D'accord. Donc, ce n'est pas une bonne idée non plus.
Non, c'est pas une bonne idée non plus. Les seules préparations infantiles autorisées sont les préparations infantiles à base d'acide aminé ou d'hydrolysate caséine, en fait, prescrites par le médecin, soit le médecin traitant ou l'allergologue, en fait.
Vous restez avec nous, le docteur Catherine Quéquette, qui est médecin allergologue, est avec nous jusqu'à 13h.
AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, on parle des allergies ce matin avec mon invité, le docteur Catherine Keke, qui est médecin allergologue. Et je rappelle que vous publiez les nouvelles allergies aux éditions du Rocher. Comment les reconnaître? Comment les combattre? Alors, parmi les allergies alimentaires, il y a quand même un grand nombre d'aliments auxquels on n'est pas, pour lesquels on n'est pas concerné, Catherine.
Il n'y en a pas beaucoup.
C'est vrai?
Il n'y en a pas beaucoup. En fait, il y a de plus en plus de diagnostics qui sont posés pour différents aliments.
Alors,
dans mon livre, je cite par exemple l'allergie à la laitue.
Alors, les feuilles de laitue. Bah, attendez, alors moi j'ai appris qu'on pouvait être allergique aux feuilles de laitue.
Bah oui, mais alors c'est vraiment exceptionnel. C'est très rare. J'ai été chercher quand même des cas assez rares.
C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas concerné. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on n'est pas concerné quand même.
Oui. Il y a des choses exceptionnelles. Heureusement. Mais ça vaut le coup de les connaître. Parce que quelquefois, on se dit, ben non, ça ne peut pas être ça. Et en fait, ça l'est quand même.
D'où vient l'augmentation des allergies à l'arachide?
L'allergie à l'arachide, on en trouve beaucoup déjà. En fait, pour tous les aliments, il y a certains aliments où en fait on les retrouve de plus en plus partout, et donc ce qui fait que plus il y a de contact, plus il y a de risques.
Mais est-ce qu'avant les gens étaient allergiques à l'arachide, ou alors ils ne le savaient pas?
Ouais, c'est possible. Et puis aussi, il y a les techniques diagnostiques qui se sont beaucoup affinées. Donc, il y a des choses qu'on arrive à diagnostiquer maintenant qu'on ne diagnostiquait pas avant.
Alors, on parlait tout à l'heure des allergies croisées. Alors, il y a l'allergie pomme-bouleau, dont on parlait tout à l'heure. Cyprès avec la pêche, mais aussi avec les agrumes.
Oui. Hein.
Alors, il y a aussi des allergies croisées qui existent entre les acariens et les crustacés et les mollusques.
Oui. Alors, il y a un allergène qui s'appelle la tropomyosine, qui se trouve, en fait, dans les acariens, dans les insectes comestibles et dans les mollusques et dans les crustacés.
D'accord. Et alors, attention aux insectes comestibles parce qu'ils peuvent nourrir certains des animaux qu'on mange.
Alors maintenant, il faut savoir qu'en Europe, il y a 4 insectes comestibles qui sont autorisés à la consommation humaine.
Ah ouais.
Donc vous pouvez peut-être consommer dans des farines sans le savoir.
D'accord. Est-ce que c'est inscrit sur les aliments ou pas? Est-ce qu'il y a une obligation de l'inscrire?
Alors pour celles qui sont à consommation humaine... il y a sur l'emballage une mise en garde pour les personnes qui sont allergiques aux acariens, aux mollusques et aux crustacés. C'est marqué sur l'emballage. Par contre, si ce sont des farines qui sont faites avec ces insectes comestibles, ça n'est pas forcément su par les consommateurs.
D'accord. Donc, manger des insectes, c'est pas forcément une bonne idée.
Pour les allergiques aux acariens, non. Après, ceux qui veulent tenter l'expérience, écoutez, qu'ils tentent. Mais quand on est allergique aux acariens, aux crustacés et aux mollusques, vaut mieux éviter.
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on...
Éviter de se retrouver aux urgences.
Voilà. Et là encore, on parlait de... d'anaphylaxie, pardon, qui peuvent parfois être mortelles. Donc là, il faut faire attention quand même.
Tout à fait, ouais.
Alors, on en parle beaucoup, le microbiote, accuser le microbiote. Quel est le lien entre le microbiote et les allergies alimentaires?
Alors, il est prouvé qu'un déséquilibre du microbiote intestinal favorise les allergies alimentaires du fait de... du peu de diversité en fait au niveau de la flore intestinale en fait. Il y a des mécanismes qui s'installent qui font que on va devenir enfin qui a un risque potentiel d'allergie alimentaire augmentée.
C'est-à-dire que, au même titre que l'obésité, le diabète, l'asthme ou l'autisme, eh bien, les allergies alimentaires peuvent être aujourd'hui influencées par le microbiote intestinal.
Tout à fait, tout à fait.
D'accord. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les allergies alimentaires, mais qui peuvent être respirées sous forme d'inhalation.
Oui, ce qu'on appelle les pneumallergènes.
D'accord. Alors, comment ça fonctionne ?
Alors, on inhale, il y a une réaction avec les anticorps, ces fameux anticorps IgE. Et il y a une interaction avec des cellules qui s'appellent les mastocytes et il y a une libération en fait d'histamine avec les éternuements, ensuite le nez qui coule ou bien des crises d'asthme.
D'accord, donc ça peut être dans n'importe quel lieu finalement.
Oui.
Donc voilà, s'il y a une odeur de cacahuète quelque part, c'est mort.
Alors, ah oui, alors vous parliez des allergies alimentaires par inhalation.
Par inhalation, exactement.
Pardon, oui, alors moi j'avais compris les pneumallergènes.
Non.
Donc, par inhalation. Par inhalation, ouais. Oui, en fait, les modes de contact avec les allergènes sont multiples. En effet, vous faites bien de faire la différence, il peut y avoir par ingestion. Mais par inhalation, tout simplement, plutôt avec des allergènes qui ne sont pas détruits par la cuisson. Donc, vous allez avoir, pour les vapeurs de cuisson de poisson, de crevettes, qui ne sont pas détruits par la cuisson, il faut que les personnes allergiques fassent attention, quoi.
C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas se trouver dans la pièce, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Mais si je suis allergique au poisson, est-ce que finalement je peux aller au marché au poisson ?
Alors, il peut y avoir, alors c'est rare, mais il peut y avoir des réactions simplement même par l'odeur.
D'accord. Alors, vous racontez des histoires incroyables, comme l'œuf, par exemple.
Pardon, je...
Vous racontez une histoire incroyable, comme l'œuf, par exemple, des peintures fixées à l'œuf.
Oui. Oui, oui. Alors, les peintures à tempura, en fait, ou bien l'histoire de cette femme qui fait une crise d'asthme alors qu'elle habite à côté d'une cathédrale, en effet. Ouais. Une cathédrale qui est rénovée, les pierres ayant été traitées à l'œuf, en fait, les poussières d'œuf lui ont déclenché une crise d'asthme.
D'accord. Pourquoi un voyage en avion et un voyage long courrier, c'est un piège et un danger pour les allergiques alimentaires ?
À cause de la possibilité de diffusion des allergènes, en fait, dans la carlingue.
Et à noter que les compagnies aériennes ont pris en cause aujourd'hui ce risque.
Pas toutes, malheureusement.
Pas toutes. Alors, vous avez des noms de celles qu'il faut éviter ?
Je n'en ai pas parce qu'en fait c'est très variable. Ça dépend des pays, ça dépend c'est très variable. La seule chose c'est qu'il faut que les personnes suivent les conseils que j'ai mis dans mon livre et informent par exemple les compagnies aériennes avant de prendre l'avion.
Donc, bien sûr, vous ne mangez pas de cacahuètes, mais vous ne vous mettez pas à côté de quelqu'un qui mange des cacahuètes.
Voilà, exactement.
D'accord. Et vous vérifiez que le repas que vous avez commandé est bien sans les allergènes, sans vos allergènes en tout cas.
Il faut espérer. C'est vrai que quelquefois, c'est une grande peur des allergiques de prendre l'avion en fait.
Alors, il y a également ce qu'on appelle les allergies par procuration. Chkoun, les allergies par procuration.
Eh bien, c'est une allergie à l'allergène qui est présent sur une tierce personne.
Alors, exemple.
Exemple, vous êtes allergique aux acariens et vous avez un rancard avec une personne qui, malheureusement, a mangé des cacahuètes avant de vous embrasser. Et vous pouvez vous retrouver aux urgences. Parce que l'allergène arachide reste dans la salive et un baiser fougueux peut déclencher une réaction allergique importante.
D'accord. Alors ça marche pour les cacahuètes, mais pas que, j'imagine.
Ça marche aussi, pour d'autres aliments.
D'accord. Bon, donc, ouais, attention avant de vous lancer dans des baisers langoureux avec des personnes que vous ne connaissez pas. Hein.
Oui, ou même des baisers en réunion familiale. Hein.
D'accord. Ah oui, d'accord.
Il y a pas. Mange une cacahuète et qui va embrasser son petit-fils.
D'accord. Donc s'il est allergique, bim, ça fait une allergie par procuration en fait.
Voilà, c'est ça.
Alors vous racontez quelque chose à laquelle on pense pas, mais c'est par exemple les hommes qui se teignent la barbe.
Oui.
Je ne citerai personne, mais c'est vrai que c'est de plus en plus courant que les hommes aujourd'hui se teignent la barbe. Et dans les produits de teinture, il y a quoi ? C'est une substance allergène, c'est ça ?
Il y a une substance allergénique qui s'appelle le paraphénylendiamine, qui va se retrouver dans les teintures capillaires, mais qui va se retrouver également dans les tatouages temporaires. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention.
D'accord. Là aussi, pareil, donc si on s'approche, c'est par procuration.
Pour les barbes, oui, pour les tatouages temporaires, en fait, il faut faire attention parce que ce sont des produits qui, soi-disant, sont ONE et qui, en fait, contiennent un produit qui est normalement interdit et qui peut déclencher des réactions d'eczéma.
Le PPD.
Oui, PPD, paraphénylendiamine.
D'accord, bon, repérez ce sigle, voilà. Alors ça marche pour les sourcils, enfin tout ce qui est teinture en fait. Hein.
Oui. Oui, oui, ça peut marcher aussi pour les teintures sur les vêtements.
Alors on n'y pense pas toujours, mais par exemple, il faut bien penser au lavage des surfaces qui ont été contaminées par les allergènes.
Oui, en effet, on peut avoir des contaminations indirectes. Donc, ce qui fait qu'il faut nettoyer les plans de travail, etc., avant de d'utiliser même des ustensiles de cuisine.
D'accord. Et on nettoie avec quoi alors ? Qu'est-ce qui est efficace pour bien nettoyer ?
Alors, ce qui est le plus efficace, c'est un détergent, parce que contrairement à ce que on peut penser, le liquide vaisselle n'est pas suffisant. Et par exemple, il y a des tests qui ont été faits avec un allergène d'arachide sur un plan de travail. Si le plan de travail n'est pas nettoyé, l'allergène d'arachide peut rester 110 jours présent.
Bien. Quand on est allergique, est-ce qu'on peut manger du miel ?
Ça dépend. Si on est allergique au pollen, c'est pas très conseillé parce qu'il peut y avoir des pollens dans le miel, en fait.
Et attention à la graine de courge. Alors, c'est très à la mode en ce moment, la graine de courge en plus. Hein.
Oui.
Pourquoi il faut faire attention à la graine de courge ?
Parce qu'on commence à avoir des réactions à toutes les graines, même.
Bon, il y a des risques aussi à la viande de kangourou, mais bon, pour l'instant, on en mange moins.
Oui. Mais bon. Comme il y a des personnes qui peuvent tenter des expériences culinaires, il faut savoir que ça existe.
Bien. Sinon, s'ils nous font des lasagnes à la viande de kangourou, c'est pour ça. Catherine Quéquette, ouais.
Je ne sais pas. Il y a la viande de kangourou, la viande de crocodile, c'est anecdotique, mais il faut savoir que ça existe.
Bien, je rappelle que vous publiez les nouvelles allergies aux éditions du Rocher, comment les reconnaître, comment les combattre. Merci d'avoir été avec nous. Vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Merci d'avoir été avec nous, Catherine. Ou pas ? Est-ce que vous êtes toujours là, Catherine ?
Oui.
Ah non, j'ai cru que vous m'aviez raccroché déjà. Je lui dis merci d'avoir été avec nous. Voilà, je m'en lassais pas. Vous voyez, je voulais pas me séparer comme ça. Merci d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.